bonne arrivée au Bénin. Dès notre descente de l'avion, nous sommes accueillis par Khalid, le neveu de notre ami Zach, qui nous installe dans ce qui sera notre chez-nous pour quelques semaines, un bel appartement moderne dans le quartier de Evive à Cotonou, la capitale économique du Bénin. C'est une ville dynamique, bruyante et polluée, située entre le lac Nokwe et l'océan Atlantique, sur les bords du fleuve Wémé qui se jette dans les eaux chaudes et agitées du golfe de Guinée. Alors que Fred avait le souvenir de Cototrou, beaucoup de rues sont aujourd'hui pavées et leurs trottoirs vidés des commerçants qui les avaient envahis. Par cette politique du déguerpissement, empruntée à son homologue rwandais, le président Patrice Talon veut mettre fin à l'occupation illégale des terrains et des trottoirs des villes du pays. Ceci a l'avantage de les rendre plus propres et moins anarchiques, mais supprime le moyen de subsistance de nombreuses familles. Ce qui n'a pas changé ici, ce sont les ZEM, abréviation de Zemidjan qui signifie « enlève-moi ». Les conducteurs de ces petites motos à essence frelatée sont vêtus de casaques jaunes et se faufilent sans crainte dans la circulation tumultueuse de Cotonou. Grâce à eux, nous nous déplaçons facilement, mais parfois avec quelques frayeurs, entre les différents quartiers de la ville. Nous allons ainsi régulièrement nous baigner au Dream Beach, plage privée gérée par Khalid, derrière l'incontournable Erevan, seul centre commercial du Bénin, où nous retrouvons quelques repères occidentaux. Mais on peut aussi faire les courses du haut de son ZEM. Tout se vend et s'achète à chaque feu rouge, où les vendeurs ambulants, marchandises sur la tête, proposent fruits, légumes, pagnes, stylos, CD, robots ménagers, etc. Les Béninois, et plus généralement les Africains de l'Ouest, ont une véritable identité vestimentaire. Sur le marché de Dantokpa, nous allons à la rencontre des femmes d'affaires béninoises, les Mama Bens, qui tiennent notamment le commerce de tissus. Des très chics wax hollandaises, en passant par les productions locales ivoiriennes et ghanéennes, ou le pagne chinois très bon marché, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. À chaque détour, parmi les étalages surchargés, c'est une débauche de motifs et de couleurs. Ce marché est l'un des plus vastes d'Afrique de l'Ouest. Si nous ne perdons pas dans cette ruche bourdonnante d'activités, c'est grâce à Rafi, l'une des sœurs de Zach, qui a mis son collaborateur à notre disposition pour nous guider. Après nos emplettes, nous la retrouvons dans le minuscule local regorgeant de marchandises qui lui sert de bureau et de magasin. Ici, pas d'informatique. Tout est noté à la main dans un cahier et les billets sont rangés par liasses dans de simples sacs en plastique. Mais la reine incontestée des Mama Bens reste la mère de Zach, qui, 20 ans après sa première rencontre avec Fred, trône toujours dans la cour de sa maison du quartier Missebo, recevant imperturbablement acquéreurs, vendeurs ou simples quémandeurs. Imposante femme d'affaires dont la robe et la coiffe traditionnelles ne font que renforcer l'autorité, elle palabre, négocie et tranche d'une main de fer tout en veillant au travail de ses nombreux comptables qui comptent et recomptent inlassablement les liasses de billets. Cotonou offre également de nombreuses activités culturelles. Très actif, l'Institut français organise expositions, concerts et débats. Toujours de bons conseils, notre ami Yvan nous a mis en contact avec Méline, qui travaille sur la francophonie. Très vite, nous sympathisons avec cette expatriée qui s'intéresse autant à la culture de son pays d'origine qu'à celle du Bénin. Les bons plans de Méline nous accompagnent tout au long de notre séjour, comme par exemple les virées du mardi soir à la cabane du pêcheur pour voir un film les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles. Un beau matin, nous partons en pirogue sur le lac Nokwe vers Ganvier, ville lacustre qui compte plus de 30 000 tofinous. Ces habitants de l'eau habitent dans des maisons sur pilotis, circulent exclusivement en pirogue et vivent principalement de la pêche. Tout comme celle de Cotonou et de la plupart des villes du Bénin, l'histoire de Ganvier est étroitement liée à celle de l'esclavage. En effet, au XVIIIe siècle, les razzias esclavagistes des rois d'Alada puis d'Abomé ont contraint les populations à se réfugier dans les zones marécageuses du lac Nokwe. Nous passons une nuit dans une petite auberge perchée sur l'eau, en famille, puisque nous sommes les seuls clients. Du haut de la terrasse, nous attendons le coucher de soleil en observant le manège des pirogues qui viennent s'approvisionner en eau potable à la pompe, ou des marchandes de fruits coiffées de leurs chapeaux coniques qui se faufilent dans la circulation dense à cette heure-ci de la soirée. S'il est difficile d'y trouver le sommeil au milieu des mille et un bruits de la vie nocturne et notamment des Alléluia fervents en provenance de l'église toute proche, c'est un lieu unique pour partager le temps de quelques heures la vie des tofinous et s'imprégner de la bienfaisante sérénité qui malgré tout règne ici. Le lendemain, nous reprenons une pirogue pour rejoindre Porto Novo à 4 heures de navigation de là. Nous nous trouvons plongés dans un univers d'eau où le ciel laiteux se reflète dans le miroir nacré du lac. On aperçoit au loin les silhouettes de pêcheurs qui poussent vigoureusement sur leurs perches pour faire avancer leurs embarcations. Car si certaines pirogues possèdent des voiles composées de morceaux de tissu grossièrement assemblés, d'autres sont de simples barques de bois. De temps en temps, un filet se déploie, éphémère fleur blanche qui brille un instant au soleil et tombe rapidement dans l'eau. Autrefois, et jusqu'à la dernière visite de Fred, les Taufinous pêchaient ainsi à l'épervier. Mais aujourd'hui, ils surexploitent les acadjas, une forme locale de pisciculture beaucoup plus productive que la pêche traditionnelle. Avec des pieux et des branchages, les pêcheurs forment de vastes enclos où les poissons sont pris au piège. Malheureusement, outre qu'ils dénaturent le paysage, ces branchages nuisent à l'écosystème déjà très fragile du lac. Les Taufinous pratiquent également le trafic d'essence. En traversant le village semi-lacustre de Soava, nous observons les larges barges qui arrivent du Nigeria, lourdement chargées de jerrycans jaunes. Leurs cargaisons sont ensuite débarquées sur la berge en échange de bidons vides. Finalement, nous atteignons un petit port et, changeant de moyen de locomotion, nous enfourchons deux M qui nous mènent à toute allure jusqu'au centre de Porto Novo et à la Grande Mosquée. La capitale du Bénin est située dans le sud-est, région peuplée par les Goun, mélange entre Adja venus d'Alada et Yorba originaires du Nigeria, qui pratiquent majoritairement le vaudou et l'islam. Les rues de terre de la Cité Rouge, que traversent nonchalamment chèvres et poules au milieu du vrombissement des M, sont bordées de minuscules échoppes aux toits de tôles ondulées ou de demeures afro-brésiliennes, très souvent décrépies et à l'air tristement abandonnées. Malgré la chaleur étouffante, nous nous perdons dans leurs dédales et au détour de l'une d'entre elles, nous découvrons le temple du monstre à neuf têtes, une tour de terre ocre signalée par un drapeau blanc, la couleur du vaudou. Nous terminons cette longue journée par la visite du centre Songhai, lieu d'expérimentation et de production agricole, qui a pour mission de combattre la famine, l'exode rural et la destruction de l'environnement en formant les jeunes Africains à l'agriculture, à l'élevage et à la pisciculture sur le modèle innovant du système intégré, où tous les sous-produits sont réutilisés et recyclés. Les déchets des animaux sont ainsi transformés en engrais et en gaz pour faire fonctionner machines et équipements qui à leur tour transforment les végétaux en aliments pour poissons, servent à la cuisson ou à l'éclairage, ou recyclent les sacs plastiques en matériaux permettant de fabriquer seaux, cuvettes, etc. Ainsi est mis en place un cercle vertueux où ce qui n'est pas consommable par l'homme est utilisé pour nourrir la faune et la flore de manière durable ou créer de la bioénergie. Ce système ingénieux a été conçu par un père dominicain d'origine nigériane, titulaire de plusieurs doctorats scientifiques aux États-Unis, qui a pris la décision de revenir en Afrique suite à la grande famine qui a frappé l'Éthiopie au début des années 80. Une nouvelle preuve que sur ce continent, tout est possible. C'est en taxi-brousse que nous rejoignons Grand Popo, situé au sud-ouest du Bénin, à la frontière du Togo, entre le lac Aémé et le fleuve Mono. Cette ville coloniale est un ancien carrefour commercial peu à peu abandonné après la construction du port de Cotonou. Aujourd'hui, avec sa mer turquoise et son immense plage bordée de cocotiers, Grand Popo est un lieu de villégiature pour les Yovo, les Blancs, ainsi que les riches Béninois et Togolais. C'est là que nous découvrons la Villa Caro, un improbable centre culturel finno-africain qui héberge des artistes de tous horizons et permet aux touristes et aux enfants de profiter gratuitement de concerts, d'expositions et d'une bibliothèque. Dans son petit musée, une fresque retrace l'histoire de l'esclavage d'hier à aujourd'hui et le dessinateur de bande dessinée béninois Hector Sonon y met en scène l'histoire de Madlena, une esclave popolaise emmenée vers une plantation lointaine. Un matin, nous partons vers la Bouche du Roi, à l'embouchure du fleuve Mono, pour découvrir la mangrove, les marécages et les villages de pêcheurs où l'on fabrique encore le sel de manière artisanale. L'eau clapote doucement sur les flancs de notre pirogue, tandis que notre guide nous conte l'histoire de la région, à sa manière imagée et à grand renfort de présentement et on évolue lorsqu'il faut avancer plus vite. Dans le but de protéger la mangrove, l'association chargée de sa préservation a installé des pancartes le long du fleuve, en pure perte. Mais, comme ici tout a un lien avec le vaudou, une méthode beaucoup plus efficace a été mise en place. Des rituels ont été pratiqués, et désormais tous ceux qui abîmeront la verdure seront fouettés par les esprits. Peu de monde depuis se hasarde à enfreindre la règle. Dès notre retour à Cotonou, nous préparons la prochaine étape de notre voyage au cœur du Bénin, le départ vers le nord. L'aventure continue.